première variante. Lorsque nous expirons, pensons que notre cœur est une brillante sphère lumineuse, d'où émanent des rayons de lumière blanche, portant notre bonheur à tous les êtres, dans toutes les directions. Quand nous inspirons, prenons sur nous leurs tourments, sous la forme d'une nuée dense et sombre qui pénètre dans notre cœur et se dissout dans la lumière blanche sans laisser de traces. Seconde variante. Imaginons que notre corps se démultiplie en une infinité de formes qui vont jusqu'aux confins de l'univers. Prennent sur elles les souffrances de tous les êtres qu'elles y rencontrent et leur offrent notre bonheur. Que notre corps se transforme en vêtements pour ceux qui ont froid, en nourriture pour les affamés ou en refuge pour les sans-abri. Que nous devenons la gemme qui accorde tous les souhaits, un peu plus grande que notre corps, et étincelant d'un magnifique bleu saphir, qui pourvoit naturellement aux besoins de tous ceux qui lui adressent une prière. Cette pratique permet d'associer notre respiration au développement de la compassion. Très simple, elle peut être utilisée à tout moment de la vie quotidienne, lorsque nous sommes assis dans un train, bloqué dans une file d'attente ou dans un embouteillage, ou lorsque nous jouissons d'un moment de répit dans nos activités journalières. Apaiser la douleur physique. La douleur physique est une expérience à laquelle nous devons tous faire face dans notre vie. Or, la réaction subjective qu'elle suscite varie de façon importante d'un individu à un autre. La sensation douloureuse peut, par exemple, être considérablement amplifiée par le désir anxieux de la supprimer. La plus bénigne des douleurs devient alors insupportable. En revanche, les maux chroniques sont mieux supportés lorsqu'on modifie son attitude devant la douleur et qu'on lui donne un sens. Les recherches en neurosciences ont montré la part importante que joue l'interprétation des sensations dans l'expérience de la douleur. Certaines ont porté sur des volontaires qui recevaient régulièrement des stimuli sur le bras, parfois assez douloureux et parfois beaucoup moins. Chaque fois, les chercheurs leur demandaient d'évaluer l'intensité de la souffrance ressentie. Au bout de quelques jours, ils ont annoncé aux volontaires qu'ils allaient recevoir un stimuli de forte intensité, alors qu'ils n'en voyaient, en fait, qu'une stimulation de faible intensité et vice-versa. Or, il s'est avéré que l'annonce d'un stimulus puissant a fait ressentir comme douloureux un stimulus de faible intensité et inversement, que l'annonce d'un stimulus de faible intensité a fait que les sujets ne percevaient pas comme douloureuse une stimulation qui, d'habitude, provoque une douleur intense. L'anticipation de la gravité ou de l'innocuité de ce qui va être ressenti joue donc un rôle prépondérant dans l'expérience de la douleur. D'une manière plus générale, l'effet placebo, quelque chose qui nous fait du bien parce que nous en attendons du bien, ainsi que l'effet nocebo, quelque chose qui nous fait du mal parce que nous en attendons du mal, confirme l'influence qu'a l'esprit sur le corps et sur la qualité de notre expérience. L'appréciation de la douleur dépend donc en grande partie du fonctionnement de l'esprit. Nous supportons mieux des douleurs dont la durée et l'intensité sont prévisibles, ce qui nous permet d'être prêts à les recevoir et donc à mieux les gérer que des douleurs dont l'intensité risque d'aller croissant et dont la durée est inconnue. Si une douleur échappe complètement à notre contrôle et que nous pensons qu'elle durera indéfiniment, notre esprit risque fort d'être alors submergé par la souffrance. Par ailleurs, donner un sens à la douleur permet de mieux la supporter. C'est le cas si nous pensions qu'elle nous apportera un plus grand bien. Nous acceptons, par exemple, les effets secondaires d'un traitement médical parce qu'il nous donne l'espoir de guérir. On peut aussi assumer une douleur pour le bien de quelqu'un d'autre. Telle est la situation d'un parent ou d'un ami prêt à donner son sang ou un organe pour sauver la vie d'un proche. Il en est de même des douleurs parfois intenses subies par le sportif qui s'entraîne. Il les accepte pleinement dans le but d'améliorer ses performances. Certains athlètes affirment que plus la douleur est forte, plus ils l'apprécient, car elle les renseigne sur l'intensité de leur entraînement. Ces mêmes sportifs seront affectés bien plus négativement par une douleur imprévue qui n'a pour eux aucune valeur, comme par exemple celle d'une blessure au cours de l'entraînement. Le fait de donner ainsi un sens à la douleur nous confère un pouvoir sur elle et élimine l'anxiété liée au sentiment de désarroi et d'impuissance. En revanche, si nous réagissons par la peur, la révolte, le découragement, l'incompréhension ou le sentiment d'impuissance, au lieu de subir un seul tourment, nous en cumulons plusieurs. Les cas les plus difficiles sont les douleurs chroniques, vives et persistantes, qui prennent constamment le pas sur les autres sensations. La douleur domine alors notre esprit et notre relation au monde, accompagnant chaque pensée et chaque acte. J'ai entendu dire par un malade, une puissante douleur chronique est comme une pierre lancée dans un étang. Les ondes se répandent dans notre vie tout entière. Il n'y a nulle part où s'enfuir. Toutefois, une douleur peut être intense sans pour autant détruire notre vision positive de la vie. Si nous parvenons à acquérir une certaine paix intérieure, il est plus facile de maintenir notre force d'esprit ou de la retrouver rapidement, alors même que nous nous trouvons confrontés à des circonstances difficiles. Certains êtres qui ont survécu à un accident, à la torture ou à d'intenses douleurs d'un autre ordre, affirment, quelque temps plus tard, se sentir plus humains et témoignent une appréciation plus profonde du monde qui les entoure, de la beauté de la nature et des qualités des êtres qu'ils rencontrent. Ils disent considérer chaque moment de l'existence comme un trésor inestimable. Comment dès lors prendre en main la douleur au lieu d'en être la victime ? Si l'on ne peut lui échapper, mieux vaut l'utiliser que la repousser. Que l'on sombre dans le découragement le plus total ou que l'on conserve sa force d'esprit et son désir de vivre, dans les deux cas la douleur est toujours présente. Mais dans le second cas, on est capable de préserver sa dignité et sa confiance en soi, ce qui fait une grande différence. À cette fin, le bouddhisme enseigne différentes méthodes. Nous en expliquerons quatre. La première consiste à observer simplement la douleur sans l'interpréter, dans un état de pleine conscience. La seconde fait appel à l'imagerie mentale. La troisième permet de transformer la douleur en s'éveillant à l'amour et à la compassion. Et la dernière consiste à examiner la nature de la souffrance et par extension, celle de l'esprit qui souffre. Méditation. La pleine conscience. Comme il est expliqué dans le texte suivant, observons avec l'esprit tout entier la sensation de douleur, sans l'interpréter, la rejeter, ni la craindre. Plongeons-nous dans l'expérience du moment présent. La sensation conserve alors son intensité, mais perd son caractère répulsif. Source d'inspiration par Yonge Mingyu Rinpoche. La plupart d'entre nous considèrent la douleur comme une menace pour notre bien-être physique. Or, si nous la laissons nous préoccuper, elle ne fait que s'intensifier. En revanche, si nous la prenons comme objet de méditation, elle devient un moyen d'accroître la clarté de notre esprit. Source d'inspiration par Bhante Enepola Gunaratna. Comment procéder pour faire de la douleur un objet de méditation? Une conscience pure et non obstruée de cet événement la ressentira comme un flux d'énergie, sans plus. Aucune pensée, aucun rejet, simplement l'énergie. Mais le mental conceptualise des expériences telles que celles de la douleur. Vous vous retrouvez en train d'y penser en tant que douleur. C'est un concept. C'est une étiquette. Quelque chose d'ajouté à la sensation elle-même. Et vous construisez une image mentale de la douleur en la voyant comme une entité. Très vraisemblablement, vous vous retrouverez en train de penser « J'ai une douleur à la jambe. Je est un concept. C'est quelque chose d'extérieur ajouté à l'expérience pure. » Lorsque vous introduisez « je » dans le processus, vous établissez une discontinuité conceptuelle entre la réalité et la conscience sans ego qui la voit. Des pensées telles que « moi », « mon », « à moi » n'ont aucune place dans la conscience directe. Ce sont des ajouts étrangers, de caractère trompeur. Lorsque vous faites intervenir « moi » dans le jeu, vous vous identifiez à la douleur. L'effet est de la renforcer. Si vous laissez le jeu en dehors de l'opération, la douleur n'est pas douloureuse. C'est simplement un pur flux d'énergie. Méditation. Le pouvoir de l'imagerie mentale. Visualisons un nectar bienfaisant, lumineux, qui imprègne l'endroit où la douleur est la plus pénible, la dissout peu à peu et finit par la transformer en une sensation de bien-être. Puis ce nectar remplit le corps tout entier et la sensation douloureuse s'estompe. Si la douleur augmente en intensité, renforçons d'autant la puissance du nectar, en pensant que chaque atome de douleur est maintenant remplacé par un atome de bien-être. Transmuons ainsi l'essence même de la douleur en félicité. La force de la compassion. Engendrons un puissant sentiment d'amour altruiste et de compassion pour tous les êtres, puis pensons « J'aspire tant à ne plus souffrir, mais d'autres que moi sont affligés par des peines comparables aux miennes, et parfois bien pires. Comme j'aimerais qu'ils puissent, eux aussi, en être libérés. » Notre douleur n'est plus ressentie alors comme une dégénérescence ou un événement accablant. Imprégnés d'altruisme, nous cessons de nous demander avec amertume « Pourquoi moi ?» Lorsque nous sommes totalement absorbés par nous-mêmes, nous sommes vulnérables et devenons facilement la proie du désarroi, de la contrariété, du sentiment d'impuissance ou de l'angoisse. Si au lieu de cela nous éprouvons une forte empathie et une bienveillance inconditionnelle devant la souffrance d'autrui, la résignation fait place au courage, la dépression à l'amour, la petitesse d'esprit à une ouverture envers tous ceux qui nous entourent. contempler la nature même de l'esprit. Contemplons simplement la douleur. Même si sa présence est lancinante, demandons-nous quelle est sa couleur, sa forme ou toute autre caractéristique immuable. On s'aperçoit que ses contours s'estompent à mesure qu'on tente de la cerner. En fin de compte, on reconnaît qu'il y a derrière la douleur une présence consciente, celle-là même qui se trouve à la source de toute sensation et de toute pensée. Détendons notre esprit et essayons de laisser la douleur reposer dans la pleine conscience, libre de toute construction mentale. Cette attitude nous permettra de ne plus en être la victime passive, mais peu à peu, de faire face et de remédier à la dévastation qu'elle provoque dans notre esprit. Ce n'est certes pas facile, mais l'expérience montre que c'est réalisable. Nous avons connu nombre de méditants ayant eu recours à cette méthode lors de maladies terminales particulièrement douloureuses. Ils semblaient remarquablement sereins et relativement peu affectés par la douleur. Francisco Varela, chercheur de renom en sciences cognitives, qui avait pratiqué la méditation bouddhiste pendant des années, m'a confié quelques semaines avant sa mort d'un cancer généralisé qu'il arrivait à demeurer presque tout le temps dans la présence éveillée de la pleine conscience. La douleur physique lui semblait alors lointaine et ne l'empêchait pas de conserver sa paix intérieure. Il n'avait d'ailleurs besoin que de très faibles doses d'analgésiques. Il a su préserver cette lucidité et cette sérénité contemplative jusqu'à son dernier souffle. La vision pénétrante. Venons-en maintenant à la vision pénétrante. Vipassana en sanskrit, vipassana en pali. Pourquoi est-il si important d'avoir une vision correcte de la réalité? Cela peut paraître bien théorique, mais ce ne l'est pas du tout. Notre façon de percevoir les autres et le monde en général influe considérablement sur notre façon d'être et notre comportement. Nous surimposons constamment au monde notre vision tronquée de la réalité, et les déformations qui en résultent sont autant de causes de frustration et de tourment, puisqu'elles finissent inévitablement par se heurter à la réalité. Combien de fois n'avons-nous pas considéré quelqu'un ou quelque chose comme étant totalement désirable ou totalement haïssable? Avec quelle force nous agrippons-nous au « moi » et au « mien », persuadés de la solidité de ces concepts? Imaginons maintenant que nous percevions le monde des phénomènes comme un flux dynamique d'événements interdépendants dont les caractéristiques sans cesse changeantes résultent d'innombrables causes et conditions et n'appartiennent pas intrinsèquement aux objets qu'elles définissent. Les concepts de « moi » et de « mien » nous apparaîtraient beaucoup plus fluides et ne feraient plus l'objet de fixations aussi puissantes. Cultiver la vision pénétrante est donc une pratique essentielle pour éradiquer la souffrance et les incompréhensions fondamentales qui en sont la source. Pour développer cette vision pénétrante, il est indispensable d'avoir l'esprit clair, concentré et stable. D'où l'importance d'avoir préparé celui-ci par la pratique du calme intérieur, shamatha. Toutefois, comme nous l'avons vu, cette dernière à elle seule ne suffit pas. Shamatha permet d'apaiser momentanément les émotions perturbatrices, mais pas de les éradiquer. Il est donc indispensable d'avoir recours à la vision pénétrante, qui permet de reconnaître la nature fondamentale de la conscience, la façon dont les émotions surgissent et s'enchaînent, et comment nos fabrications mentales renforcent notre égocentrisme. La vision pénétrante nous permettra, par l'analyse puis par l'expérience directe, de comprendre que les phénomènes sont impermanents, interdépendants, et de ce fait dénués de l'existence autonome et tangible que nous leur attribuons d'ordinaire. Il en résultera davantage de vérité et de liberté dans notre manière de percevoir le monde. Nous ne serons plus prisonniers de notre vision égocentrique et gérerons plus facilement les réactions émotionnelles engendrées par notre interaction avec ce qui nous entoure. Vipassana peut être pratiquée à différents niveaux et de diverses façons. Nous envisagerons ici quelques-uns de ces aspects. Comment arriver à une plus juste compréhension de la réalité? Comment s'affranchir des tourments créés par les émotions perturbatrices? Comment démasquer l'imposture de l'ego et comprendre l'influence exercée par ce concept sur notre souffrance et notre bien-être? Comment appréhender la nature fondamentale de l'esprit? Mieux comprendre la réalité. Que faut-il entendre par réalité? Selon le bouddhisme, il s'agit de la nature véritable des choses, non modifiée par des fabrications mentales qui creusent un fossé entre la façon dont les choses nous apparaissent et ce qu'elles sont véritablement. Ce désaccord engendre d'incessants conflits avec le monde. Habituellement, en effet, nous percevons le monde extérieur comme un ensemble d'entités autonomes auxquelles nous attribuons des caractéristiques qui semblent leur appartenir en propre. Les choses nous apparaissent comme étant intrinsèquement plaisantes ou déplaisantes, et les gens comme fondamentalement bons ou mauvais. Le « moi » qui les perçoit nous semble tout aussi réel et concret. Cette méprise, que le bouddhisme appelle « ignorance », engendre de puissants réflexes d'attachement et d'aversion qui mènent généralement à une kyrielle de souffrance. Selon l'analyse bouddhiste, le monde résulte du concours d'un nombre infini de causes et de conditions en perpétuel changement. Comme un arc-en-ciel qui se forme au moment précis où le soleil brille sur un rideau de pluie et s'évanouit dès que l'un des facteurs contribuant à sa formation n'est plus présent, les phénomènes existent sur un monde essentiellement interdépendant et n'ont donc pas d'existence autonome et permanente. La réalité ultime est donc ce que l'on appelle la vacuité d'existence propre des phénomènes animés et inanimés. Tout est relation. Rien n'existe en soi et par soi. Lorsque cette notion essentielle est comprise et intériorisée, la perception erronée qu'on avait de notre moi et du monde laisse place à une juste compréhension de la nature des choses et des êtres. La connaissance. Celle-ci n'est pas une simple construction intellectuelle, ni un ensemble d'informations. Elle procède d'une démarche essentielle qui permet d'éliminer progressivement l'aveuglement mental et les émotions perturbatrices qui en découlent, et par là même, les causes principales de notre mal-être. La méditation qui suit, dont le but est de nous aider à transformer notre perception de la réalité, est décrite en termes contemporains, mais elle est fondée sur une analyse classique de la philosophie bouddhiste. Méditation. Imaginons une rose fraîchement éclose dont nous admirons la beauté. Qu'elle est belle! Imaginons maintenant que nous sommes un petit insecte qui grignote un morceau de pétale. qu'il est bon. Visualisons-nous dans la peau d'un tigre, dans lequel cette rose est posée. Pour lui, la fleur ou une botte de foin, cela ne fait guère de différence. Transportons-nous maintenant au cœur de cette rose et imaginons-nous sous l'aspect d'un atome. Nous n'existons plus que sous forme de trajectoire énergétique dans un monde kaléidoscopique, au sein d'un tourbillon de particules qui traverse un espace presque entièrement vide. Où est passée la rose? Où sont sa couleur, sa forme, sa texture, son parfum, son goût, sa beauté? Quant aux particules, si on y regarde de plus près, sont-elles des objets solides? Pas vraiment, disent les physiciens. Ce sont des événements qui surgissent du vide quantique, des ondes de probabilité et enfin de l'énergie. De l'énergie? Serait-ce là une entité? N'est-ce pas plutôt un potentiel de manifestation qui n'est ni non-existant, ni vraiment existant? Que reste-t-il de la rose? La vacuité de quelque chose. Ce n'est pas l'inexistence de cette chose, mais sa nature véritable. La vacuité d'un arc-en-ciel, ce n'est pas son absence. C'est le fait qu'alors qu'il brille de toutes ses couleurs chatoyantes, il est entièrement dépourvu d'existence propre, autonome et permanente. Il suffit que le soleil qui brille derrière nous soit voilé un instant, ou que le rideau de pluie cesse de tomber, pour que l'arc-en-ciel s'évanouisse sans laisser la moindre trace. Examinons ainsi la nature des choses qui nous entourent. Rendons-nous compte qu'en dépit de leurs apparences tangibles, elles sont dénuées d'existence ultime. Laissons notre esprit reposer quelques instants dans cette union indissoluble des apparences et de la vacuité, de la forme et du vide.